CKUT. Ding dong, ding dong, ding dong, ding. CKUT 90.3. Take it from me. It's the best, beats the rest. 90.3 CKUT.
CKUT. Make me on the air. Live for CKUT. CKUT. CKUT.
You are listening to see, I can see it. CKUT in Montreal.
The Prison Radio Show is a twice-monthly news show on CKUT. The show seeks to confront the invisibility of prisons and prisoner struggles by focusing on the roots of incarceration, policing, and criminalization, and by challenging ideas about what prisons are and who ends up inside. We are dedicated to programming that is directly collaborative with people who are currently incarcerated. With that in mind, we would like to let you know that we have a phone line for prisoners and their outside supporters. In fact, we have two phone lines. You can call us Collect from Bordeaux Prison and Riviere de Prairie Prison by calling 514-876-3748. We also have a number for non-collect calls. That number is 438-337-8423. Feel free to call that number and leave a message for us with news to share on the show or an audio message for your loved ones inside.
McGill University's fourth annual Queer History Month is taking place this October. Events kick off Wednesday, September 29th from 5 to 7 p.m. with Return of the Rainbow, a homecoming event for current and past students, staff, and faculty who identify with 2S LGBTQIA communities. The featured keynote presentation is taking place from 6 to 7:30 p.m. on Friday, October 1st with entomologist Jessica Ware of Rutgers University. Visit the Equity at McGill webpages, www.mcgill.ca/equity, for a complete list of Queer History Month events organized by McGill's Office of the Provost and Vice Principal Academic and their partners. Queer History Month will be opened and closed by Elder Gawenodas Sedalio Fazio. The goal of McGill's Queer History Month is to raise awareness, advance education, and increase visibility of 2S LGBTQIA communities by recognizing their histories and contributions, building bridges, and bringing together McGill students, staff, faculty, and alumni, and Montreal community members.
Des immigrants sur CKUT 90.3 FM à Montréal. Je suis Moukala, votre animatrice comme à l'habitude. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, nous traiterons de santé et sécurité du travail chez les personnes immigrantes. et on traite du sujet dans le vu le cadre de la Semaine nationale de santé et sécurité qui aura lieu du 18 au 23 octobre prochain. Également, nous traiterons donc de... En fait, nous écouterons un reportage de la Centrale des syndicats démocratiques du Québec, un reportage sur la santé mentale au travail. Et puis donc, en fait, ce serait intéressant là, de comprendre en fait le comment, le pourquoi là, de difficultés psychologiques en fait vécues par les travailleurs dans les organisations du travail québécoises, mais partout. Donc, nous n'aurons pas de manchette aujourd'hui. On va tout de suite débuter avec le sujet, en fait, un des sujets du jour, donc la santé et sécurité du travail chez les personnes immigrantes. Donc, tout de suite après, en fait, cette brève petite pause musicale.
Quality sounds, tune into CKUT 90.3 on the frequency modulation band radio. www.ckut.ca on the internet. Streaming audio, archive shows, and information. CKUT.
Me revoilà au micro. Donc, premier sujet, santé et sécurité du travail chez les personnes immigrantes. En fait, l'information est tirée d'un écrit de 2016 de l'Institut de santé et société de l'UQAM. Mais un écrit là, qui, d'après moi, est tout aussi pertinent aujourd'hui, en 2021. Donc, ce que l'on comprend à la lecture du document, c'est qu'il y a une problématique là, vécue chez les personnes immigrantes, donc problématique plus importante en matière de santé et sécurité. Ce que l'on comprend, c'est que les lésions professionnelles sont plus nombreuses et plus graves. Ce que l'Institut de santé dit, c'est qu'au fond, il y a la précarité. La précarité est à la base de ce phénomène. Précarité qui fait en sorte que, ben, on a des. Chez les personnes immigrantes, il y a un stress plus important vécu qui fait qu'on a des efforts démesurés. Voilà, il y a également la question des supervisions ambiguës ou inadéquates, l'absence de soutien des collègues ou de patrons qui font en sorte que. Au final, on a des lésions plus importantes, plus graves également. La précarité, selon donc, Rogers et Rogers, définition de l'écrit donc, de l'Institut de santé et société, donc la précarité, il y a quatre grandes dimensions à la précarité. On a la précarité du lien d'emploi, qui fait référence à la forte incertitude sur la durée de l'emploi, à la continuité du lien d'emploi entre le travailleur et l'entreprise. La précarité professionnelle, qui fait référence à la faible protection des travailleurs. Donc, on parle d'assurance-emploi, le chômage, protection contre la discrimination. Donc, cette précarité professionnelle perçue par les travailleurs, est perçu comme la non-reconnaissance qui aurait aussi un impact donc, sur la survenance des lésions professionnelles. Précarité économique qui s'apparente, donc dans le texte, on parle donc, du fait qu'elle s'apparente au faible contrôle individuel et collectif des conditions de travail, mais en fait, donc, on parle de précarité économique qui fait en sorte où on a en fait moins de revenus, donc les personnes immigrantes connaissent moins de revenus. La précarité de statut, donc ici, j'ai en tête, en fait, le fait qu'on parle bien souvent de gens qui sont qui ont des statuts temporaires. On parle, dans le texte, vous allez le voir, on parle donc, de travailleurs étrangers temporaires, mais il y a aussi, finalement, tous les travailleurs avec visa, en fait, ce qui fait en sorte que cette précarité de statut aurait aussi un impact. Ce que l'on dit, c'est que les personnes immigrantes, en fait, cumulent plusieurs précarités, donc plusieurs de ces dimensions de la précarité, donc en emploi, professionnel, économique et statut, et l'ensemble de ces dimensions, en fait, aura un impact sur la survenance de liaisons professionnelles. En gros, ce que l'on note là, au niveau des personnes immigrantes, donc je répète, une fréquence et gravité des liaisons plus importantes, des travailleurs qui connaissent également des difficultés à réclamer des indemnités et qui connaissent des difficultés à s'inscrire dans le processus de réadaptation lorsqu'ils sont victimes de liaisons professionnelles. Il est difficile au Canada de dresser un portrait juste donc de l'état de santé, en fait, de dresser un portrait juste de ces travailleurs, donc étrangers temporaires, travailleurs, donc on parle dans le texte, donc, qui travaillent pour des agences de location de personnel. Également, on fait référence aux travailleurs, donc de petites entreprises non syndiquées. Donc, c'est difficile au Canada donc, de cibler dans les organisations, ce type de travailleurs et où ils se trouvent exactement, donc dans les différentes organisations au Canada mais au Québec également. Et pour cette raison, donc, ça devient difficile de cibler donc, des mesures d'intervention précise pour ces travailleurs. Ce que l'on dit en fait, c'est que les professionnels de la santé et sécurité, les médecins, les infirmières, les hygiénistes, industriels, audiologistes, ne peuvent leur accorder une attention particulière. Hein, parce que si on parle donc, de travailleurs, une agence de location de personnel, si on parle de travailleurs étrangers temporaires, des gens qui sont présents dans l'organisation, oui, mais qui arrivent, qui sont là pour un moment déterminé, bien, finalement, je veux dire, c'est difficile pour ces hygiénistes de leur accorder une attention. Est-ce que c'est vrai? Oui. De quelle façon ça devient difficile? Ça devient difficile quand la personne, en fait, j'imagine, parce qu'on parle du fait que ces gens-là sont de passage dans l'organisation, donc ça devient difficile pour cette raison-là, j'imagine. Donc, la personne, elle est là pour un moment précis, et donc, est-ce que l'hygiéniste peut, j'imagine qu'elle peut la rencontrer, qu'elle peut rencontrer le travailleur, mais est-ce qu'elle peut vraiment travailler avec cette personne? Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi, mais ce qu'on comprend, c'est que c'est plus difficile pour les professionnels en santé et sécurité du travail d'accorder une attention particulière à ces travailleurs qui, en fait, dans le texte, on dit qu'ils sont invisibles. Spécifiquement, donc, pour les petites entreprises non syndiquées, on parle en fait d'un manque de temps. Donc, comment on explique le lien entre le manque de temps et la survenance de liaisons professionnelles? Bon, bonne question. Mais on parle également donc de méconnaissance des pratiques et des méthodes de gestion en matière de santé et sécurité, ou pratiques déficientes ou inconsistantes. Donc, les employeurs, les patrons auraient, donc de ces organisations, auraient des pratiques déficientes, inconsistantes, ce qui serait à la base donc, de la survenance de liaisons professionnelles plus importantes chez les personnes immigrantes qui se retrouvent en plus grande proportion au niveau de ces petites entreprises non syndiquées. Selon l'Institut, donc, la solution serait d'accompagner étroitement les petites entreprises non syndiquées lors de leur implantation, surtout au cours des 5 premières années, alors que ces petites entreprises sont plus soucieuses de leur survie. Et j'imagine plus soucieuses de leur survie et peut-être moins soucieuses d'investir en matière de santé et sécurité au travail. Et ensuite, au niveau des agences de location de personnel, donc on connaît bien, entre plusieurs connaissent bien cette situation, donc les agences de location de personnel s'inscrivent dans une relation tripartite avec l'entreprise cliente, hein. Donc on a le travailleur, l'agence et puis l'entreprise cliente. Et puis donc au niveau donc la reconnaissance donc, de tout ce qui est gestion, en fait, de tout ce qui est problématique en matière de santé et sécurité, bien, ça devient difficile. Il y a une espèce je ne sais pas le bon terme, mais bon, et l'entreprise cliente et l'agence, en fait, se dise ben, non responsable. Hein. La question est donc le travailleur et la personne salariée de quelle organisation. Et donc, pour ces raisons, donc tout ce qui est formation, tout ce qui est pratique de... En fait, formation en termes de mesures d'urgence également, tout ce qui est lié avec les équipements de protection individuelle, bien, finalement, ça devient une espèce de, je dirais, de litige entre l'entreprise cliente et l'agence de location de personnel pour savoir, bien, finalement, qui a pour charge tous ces aspects, en fait, de la gestion de la santé et sécurité des travailleurs. Également, donc, ce que l'on dit, c'est que les travailleurs sont peu informés de leurs droits, donc en matière de droit de refus, droit à l'indemnisation, droit de la travailleuse enceinte ou qui allait. Puis voilà, puis il y a également donc les superviseurs des agences qui sont peu présents sur les lieux de travail, donc dans l'entreprise client, ce qui fait en sorte que finalement, ben, ça devient difficile après, j'imagine, qui ben, il n'est pas juste la question du contrôle, mais j'imagine après quand même une problématique précise ben, c'est facile pour l'entreprise client de dire ben voilà, c'est votre faute pour hein, vous, l'agence de la question personnelle, puis l'agence de dire ben j'ai rien à dire en fait entre guillemets parce que ben voilà, je n'étais pas présente sur les lieux de travail. Donc voilà pour les agences de la question personnelle. Finalement, on a donc les travailleurs étrangers temporaires, donc on connaît bien donc ces travailleurs hein, qui viennent bien souvent du Mexique, du Guatemala, beaucoup, bien souvent de l'Amérique latine, qui viennent ici travailler donc dans les champs, cultiver fruits et légumes. Donc des travailleurs donc de pays étrangers qui connaissent peu ce que l'on dit bien souvent, donc qui connaissent peu la langue française. Donc pour cette raison, les travailleurs qui méconnaissent leurs droits, oui, mais qui éprouvent beaucoup, en fait, hésitent à les exercer. Pourquoi? Ben, pour une raison X ou autre. Hein. Les travailleurs qui veulent améliorer leur situation, donc qui j'imagine, tiennent à leur lien d'emploi avec donc, ces entreprises. Et donc, voilà, donc, est-ce que ces travailleurs ont le courage, en fait, de dénoncer des conditions de travail difficiles? Peut-être que non. Pour ces raisons, donc, l'Institut de santé et société dit que les services publics en matière de santé et sécurité doivent revoir un peu leurs pratiques pour assurer un service, en fait, pour revoir, en fait, faire en sorte qu'il y ait des pratiques équitables, autant là, pour les travailleurs ici d'immigration, donc les personnes immigrantes versus les travailleurs québécois là, qui ne seraient pas donc, ici d'immigration. Donc, on doit revoir donc, la définition du travail à risque. Donc, il faut revoir cette définition pour inclure la composante de précarité et nommer les travailleurs vulnérables et donc qui occupent des emplois précaires. Donc, ce que l'on dit, c'est que les travailleurs vulnérables, qu'ils soient immigrants, jeunes, femmes ou personnes exclues du marché du travail pour diverses raisons, ne sont pas incompétents ou ignorants des savoirs de protection. Donc, ils sont en situation de cumul de précarité, ce qui freine toute possibilité d'exercer leurs droits. Donc, l'Institut propose de reprendre la définition du travail précaire telle que formulée par la Commission de droit de l'Ontario. En gros, en fait, rapidement, ce que la Commission de droit de l'Ontario dit, c'est que le travail précaire est caractérisé par l'instabilité des emplois, l'absence d'avantages sociaux, des bas salaires, et le degré de contrôle exercé sur le processus. Ce travail comporte peut-être davantage de risques d'accidents de travail. Il est important, donc, selon la Commission de droit de l'Ontario, donc, de comprendre que la vulnérabilité ne fait pas référence aux travailleurs eux-mêmes, mais à la situation à laquelle ils sont confrontés parce qu'ils exercent un travail précaire et à cause d'autres désavantages liés au sexe, l'immigration. Le travail précaire a une incidence sur les aspects de la vie des travailleurs vulnérables qui sont sans rapport avec l'emploi lui-même. Et donc, ce travail mène à un risque accru. Donc, oui, on répète donc d'accidents de travail, mais également donc stress et défis et accès également à des soins médicaux. OK. Ensuite, l'Institut de santé et société dit qu'il faut donc les services publics en matière de santé et sécurité doivent rendre visibles les travailleurs en situation de précarité. Comment faire pour les rendre visibles? Donc, ce que l'on dit, c'est que l'Institut dit, c'est que les services publics devraient introduire des variables sur l'origine des travailleurs, leur durée de séjour dans les pays d'accueil et le type de lien d'emploi, temporaire, étranger, saisonnier, etc., pour répondre à certaines questions. Donc, aux questions suivantes, quelle est l'ampleur des emplois précaires au Québec comparativement aux emplois stables? Comment évolue ce phénomène au cours des années? Quelles entreprises ont recours à ces emplois précaires pour combler leurs besoins de main-d'œuvre? Quels sont les risques et pratiques de santé et sécurité auprès des travailleurs qui occupent ces emplois précaires? Et puis, ces données seraient utiles pour redéfinir les cibles d'intervention en se basant donc, sur les concentrations d'emplois précaires selon les secteurs d'activité, selon la taille des entreprises ou encore la région où les entreprises mènent leur opération. Ensuite, selon la statistique, il faut intervenir prioritairement auprès des entreprises ayant recours à de multiples collectifs de travailleurs. On fait référence ici donc aux travailleurs étrangers temporaires, aux travailleurs d'agences de location de personnel et autres travailleurs. Et puis, on intervient directement auprès de ces entreprises pour vérifier. Bon, on parle dans la thèse donc, de dresser un portrait des entreprises desservies, donc qui utilisent ces main-d'œuvre, en configurant la place qu'occupe chacun des collectifs, donc en fait pour voir en gros quelles sont les pratiques en matière de santé et sécurité dans ces organisations qui emploient donc, des travailleurs étrangers temporaires, et etc. Finalement, donc, il faut mobiliser les acteurs concernés dans les domaines, dans des partenariats. Donc, acteurs concernés, on fait référence aux organismes communautaires d'intégration socio-professionnelle des immigrants et autres, donc, qui feraient en sorte qu'on pourrait ensemble trouver une solution pour faire en sorte qu'éventuellement, donc, les travailleurs issus de l'immigration, donc les personnes immigrantes, ne connaîtraient plus des liaisons professionnelles plus nombreuses et plus graves. Bon, comment? Bonne question. Je vous lis rapidement ce que l'on lit dans la thèse. Donc, pour maximiser l'efficacité de ce mouvement de transformation des pratiques de santé et sécurité en regard des travailleurs immigrants, il faut déployer simultanément les efforts de chacune des organisations. Donc, on a les organismes communautaires. Et donc ces organismes ne sont pas experts en matière de santé et sécurité, mais sont des experts en matière d'obstacles à l'inclusion, tout comme les services d'employabilité. Ils connaissent, ce qu'on dit, c'est qu'ils ont des réseaux, ils sont disposés à recourir à des programmes prévus. En fait, tout comme les organismes d'employabilité, ces personnes, donc ces organismes communautaires d'intégration socio-professionnelle des immigrants peuvent travailler avec donc, les différents acteurs en matière de santé et sécurité pour voir un peu comment, pas mieux protéger à travers l'immigration, mais revoir un peu les façons de faire pour que, au final, ces personnes soient aptes à dénoncer des situations, aient confiance, justement, donc pour dénoncer des situations, etc. Donc, pour le texte donc, de l'Institut de la santé et société de l'UQAM, donc, qui traite donc de la problématique donc, de la santé et sécurité du travail chez les personnes immigrantes. On va écouter ensemble une pièce musicale, donc la pièce d'un Congolais du Québec. Je suis moi-même d'origine congolaise, donc un Congolais du Québec, Pierre Quinders, la pièce Malembe, une pièce de 4 minutes. Et donc, on se retrouve tout de suite après.
Tu m'as trouvé dans le calme. Tu m'as dit ton amour a fait du sang. Au Langoussinga, il y a le boisson pénétrant. Au Kokotakate, à Tobetti n'importe. Au
coco tacaté. Cette parcelle n'est pas à vendre, hypothèque de beau crédit. Bimi sambongo, kangalo pango, même ma sanga tabami balai. Wana yo, manembe, makaleba bisou. Lelo coco, lelo tubina, lelo wana yo. Tokokota manembe. Okoti, obimi, ozindi, kebali bulu, omati, okiti, olengi, nyongwana mito kredi na ritme oyo kashoni, imisambongo kangalo pango me mama sanga taba mibale, ngana yo, malembe, mbakale babisi.
Kokota malembe, kokosala malembe. Kokota malembe, kokosala malembe. Malembe 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 malembe. Kokota malembe, kokosala malembe.
Voilà au micro, donc l'émission est bientôt terminée, enfin bientôt terminée, c'est plus ou moins vrai. Donc avant de terminer l'émission, on va écouter le reportage donc, de la centrale des syndicats démocratiques du Québec sur la santé mentale au travail, un reportage de 2015, mais qui est également là, tout aussi d'actualité aujourd'hui. Donc dans le reportage, il est question donc de l'importance des dépressions, des problèmes psychologiques et de la maladie mentale due au travail. Apparemment donc ces problèmes donc de santé mentale au travail sont devenus en fait le numéro un en santé au Canada et partout dans le monde en 2020. Apparemment donc c'est épeurant. Les scientifiques s'accordent sur ce qui vous met à risque de subir des problèmes psychologiques et comment le travail peut vous rendre malade mentalement. Donc, on écoute ensemble le reportage et par la suite, on écoute la pièce donc de la pièce DMK Filem Boulé. Donc, une pièce de musiciens africains. J'ai pas le pays, là, j'ai pas vérifié le pays. Ils sont peut-être congolais également, c'est à vérifier. Et donc, on se retrouve donc, après cette pièce, donc après le reportage et après la pièce musicale pour la fin de l'émission.
Mon nom, c'est François Brault. J'étais un travailleur charpentier-menuisier dans le domaine de la construction. Moi, j'ai eu une rencontre avec mon chargé de projet. Il m'a proposé un chantier. C'est un projet de 3,5 millions avec des 4,5, des 5,5, puis c'était un 19 logements. J'avais tout à gérer cette situation-là, clé en main. Quand je suis arrivé là-bas, là, il n'y avait rien de préparé. Niveau sécurité, il n'y avait rien de fait. Rien de fait. Puis, tous les problèmes que j'ai eus, c'est moi qui devais me débrouiller avec ça. J'appelais mon chargé de projet. Il me disait, débrouille-toi avec ça. Es-tu capable de te débrouiller avec ça? Ma réponse était, oui, je suis capable. J'acceptais tout le temps qu'ils me mettent du sable dans mon pack-sac, dans mon sac d'outils, autrement dit. Là. À un moment donné, je pensais que c'était pour en finir un jour, mais c'était tous les jours. J'avais des problèmes. Tous les jours. Quand ils ont fait les fondations, ils ont fait au mois de janvier, dans le gel. Le sol était gelé. C'était pas ma responsabilité. Des fondations, moi, j'avais une bâtisse à mettre dessus. Quand j'ai mis la bâtisse dessus, au début juin, la bâtisse a s'est effondrée de 5 pouces par le centre. Quand vous mettez une bâtisse, vous bâtissez, puis j'avais mis du temps, des heures, puis m'occuper de tout ça. Puis quand tu as fini de bâtir, puis la bâtisse s'effondre de 5 pouces. Vous demanderez n'importe qui travaille dans la construction, c'est un coup de couteau au cœur, ça vient de te faire mal encore bien plus. Quand je suis arrivé, puis j'ai parlé au chef de projet, là, qui me disait qu'il me mettait dehors. Là, là c'est un autre bâtisse qui est tombé à terre aussi. C'est moi qui ai planté tout ça. J'ai été 5 semaines couché dans le lit sans bouger. 5 semaines. Avant de rencontrer le médecin. Puis c'est le médecin qui m'a dit que j'étais en dépression, ma chère. Je ne savais même pas que c'était une dépression. Je ne savais même pas ce que c'était.
Mon nom est Michel Vézina. Je suis médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, spécialisé particulièrement en santé psychologique au travail. L'importance du problème des santé mentale au Québec, surtout santé mentale attribuable au travail, est de plus en plus connue. On a fait, par exemple, en 2008, une enquête, une vaste enquête représentative de l'ensemble de la population au travail au Québec. On a mesuré l'importance des symptômes dépressifs sévères, des gens qui ont plus le goût de rien faire alors qu'ils avaient le goût de travailler ou de faire beaucoup d'autres choses avant, ou encore qui pleurent tout le temps, qui ont une humeur dépressive. Et on a constaté que 12% des personnes au Québec avaient présenté des troubles dépressifs, des symptômes dépressifs importants. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que parmi ces 12%-là, 60% attribuaient ces troubles dépressifs ou ces symptômes dépressifs sévères à leur travail, en tout ou en partie.
Pour moi, une dépression, en étant travailleur de la construction, pour moi, ça n'existe pas. Tu travailles, tu ne penses pas à tes problèmes. Quand tu... consciencieux, t'aimes ton travail, t'aimes ton métier, tu penses pas... Une personne à côté de toi, t'as pas le droit d'être malade. Blessé, oui, tu peux te blesser, mais moralement, j'avais de la misère à concevoir cette situation de maladie.
Il existe un tabou entourant les problèmes de santé psychologique au travail. Les problèmes de santé psychologique en général, par rapport aux problèmes de santé physique. On a fait une étude chez les médecins, par exemple, qui avaient dû arrêter leur travail, arrêter de pratiquer pour un problème de santé psychologique, etc. Un nous disait, par exemple, si tu fais un infarctus, on va dire que tu as trop travaillé. Si tu fais un épuisement professionnel, on va dire que t'es pas assez fort. T'as pas choisi le bon métier. D'autres nous disaient, par exemple, en quittant le travail de l'année dernière pour épuisement professionnel, personne s'est intéressé à moi. J'ai été hospitalisé pour un problème sérieux. Personne n'est venu me voir à l'hôpital. Par ailleurs, j'ai un collègue qui, lui, en sortant de l'école, il a glissé sur la glace, il s'est cassé une jambe, il a dû être hospitalisé un peu. Il a reçu des fleurs à l'hôpital. On est allé le voir à l'hôpital, on est même allé le voir chez lui. Donc, c'est comme deux poids, deux mesures.
Mon nom est Jean-Pierre Brun, je suis professeur de management à l'Université Laval, puis aussi expert conseil en qualité de vie au travail depuis 25 à 30 ans. On constate en effet une augmentation des troubles d'ordre psychologique à deux niveaux. D'abord, au niveau de la société dans son ensemble. L'OMS est la première à le dire que les dépressions majeures vont être la première cause d'invalidité sur la planète en 2020. Ça, c'est demain matin, ça. Mais on constate aussi ce même phénomène-là dans le monde du travail. Et là, en effet, la perspective de se dire bien, c'est parce que les individus sont fragiles ou bien parce qu'ils ont certaines prédispositions tient moins, parce que d'abord, d'un milieu à un autre, on constate que les gens nous parlent des mêmes, ce que j'appelle facteurs de risque, des mêmes enjeux. Et aussi, de plus en plus, je dirais, d'une culture à une autre, d'un pays à un autre, d'une génération à une autre, on entend aussi cette problématique-là émerger de manière de plus en plus importante.
Moi, je m'appelle Daniel Judbert, je suis conseiller syndical à la CSD depuis le 14 août 2006. Quand on regarde au niveau des statuts et règlements de la CSD, le premier article parle de la primauté de la personne. La centrale a été formée pratiquement sur ce mot-là. Primauté de la personne, c'est une personne complète, entière, physique, mentale. On a mis en place des visières, des lunettes de sécurité, des bouchons, des vestes de sécurité, des vêtements, des bottines à cap d'acier. On met des équipements après toutes les machines, mais on ne s'occupe pas du cerveau. Dès qu'il arrive un problème avec un cerveau, on est démuni, on ne sait plus quoi faire.
Tout le monde est à risque d'être visé par un problème de santé psychologique, comme tout le monde est à risque d'être visé par un problème de santé physique s'il est exposé à des facteurs de risque qui entraînent cette maladie-là. Le facteur de risque premier à qui on pense, mais qui n'est peut-être pas le plus important, c'est la charge de travail. Les gens qui sont en surcharge de travail sont plus à risque. Il y a aussi le manque d'autonomie. Les gens qui sont obligés de suivre une règle, de suivre un protocole, qui n'ont pas la capacité de faire appel à leur créativité, qui n'ont pas la capacité de contrôler ce qu'ils font. Ou de participer aux décisions qui les concernent. Ça, c'est tout le volet autonomie qui est majeur, qui est reconnu depuis longtemps. L'autre dimension, c'est le soutien social, l'esprit d'équipe, l'aide et la collaboration sur lesquelles on peut compter, qu'elles viennent du supérieur ou qu'elles viennent des collègues. Et finalement, la reconnaissance. La reconnaissance qui se manifeste par la reconnaissance monétaire, la reconnaissance organisationnelle liée à la sécurité d'emploi, même la reconnaissance sociale liée au respect et à l'estime qu'on ressent ou qu'on ne ressent pas. Avec le soutien social, il faut aussi mentionner le harcèlement psychologique ou les conflits ou les perturbations qu'on appelle dans le jargon des rapports sociaux. Donc, non seulement vous n'avez pas de soutien, mais en plus, vos collègues vous harcèlent ou votre supérieur vous harcèle. Donc, ça ajoute en soi un facteur de risque particulier.
J'ai un salarié a déposé une plainte pour harcèlement psychologique. Et puis, l'employeur, constamment, le harcelait, lui tirait des papiers, le traitait de niaiseux, suivait toutes ses affaires pas à pas, le ridiculisait lors des rencontres, lors de certains meetings qui se tenaient sur les lieux du travail, le ridiculisait lors de formations, s'amusait à le pointer devant les autres. Et puis, le travailleur a craqué, a déposé une plainte pour harcèlement. On a 13 témoins. Avec le président de syndicat, on les a rencontrés, les 13. Pour s'apercevoir, quand on regardait les noms des 13 témoins, qu'on leur relatait les faits où ils étaient mentionnés sur les différentes étapes de la plainte, les dates, les événements, les rencontres de formation ou quoi que ce soit, les 13 ne se rappelaient plus de rien, avaient oublié, ou c'était pas grave, c'était pas tellement important ce qui s'était passé.
Le témoin a un rôle majeur parce que le harceleur carbure au silence des témoins et la situation va perdurer s'il sent qu'il n'y a pas de résistance. D'où l'importance que le témoin, même si ça prend beaucoup de courage, puisse se faire connaître, se faire savoir à l'autre que c'est irrespectueux ce qui vient d'être fait, ce qui vient d'être dit.
Il faut dire qu'à l'époque, dans cette entreprise-là, il y avait un climat de terreur un peu installé où l'employeur manipulait beaucoup les opinions et puis beaucoup de menaces de congédiement. Les gens ne voulaient pas beaucoup intervenir. Il y avait peur des répercussions ensuite et puis des conséquences du fait d'appuyer le travailleur et le syndicat dans les démarches.
Plus il y a de l'abus dans l'entreprise, plus les gens vont vouloir éviter d'attirer attention à leur situation. Et donc, à la dernière minute, ils vont se décommander, ils vont dire « Je sais que c'est arrivé, mais je peux pas aller témoigner pour toi parce que j'ai des enfants, je vais pas perdre ma job. »
Quand on a vu que les 13 témoins ont pas voulu collaborer, puis le travailleur il a fait une grosse dépression. Une grosse dépression, ça l'a presque amené une séparation. On s'est ramassé avec un dossier où ce qu'on n'avait rien de solide. Puis le travailleur, en craquant comme il l'a fait, ben il était plus capable d'aller au bout non plus. Donc, il a fallu en venir à retirer la plainte.
Il y a des conditions de travail qui mènent au harcèlement psychologique. si on met les travailleurs en compétition les uns avec les autres. Par exemple, un employeur qui dit, bien, à chaque équipe de cinq, il y en a un des cinq que je vais mettre à pied, puis je vais envoyer un avis de mise à pied à tout le monde, puis là, vous allez voir qui est le plus performant entre vous cinq, puis les quatre plus performants restent. C'est une manière garantie pour rendre malade les cinq. L'employeur doit réaliser que ce n'est pas une manière de gérer son monde. Le syndicat doit le voir, et très souvent, le syndicat le voit, mais le subit. Mais je peux vous dire aussi que les gestionnaires locaux subissent aussi des décisions qui viennent d'en haut, et c'est la décision qui vient en haut qui cause les maladies en bas.
Nous sommes intervenantes sociales dans un milieu où les gens ont besoin d'un support psychologique, ont besoin d'aide pour se reconstruire.
Ce qui devient agressant, c'est la peur de s'exprimer auprès de la direction à un certain moment donné quand on te remet toujours en doute. On te dit, t'aurais peut-être dû dire ça, t'aurais peut-être dû faire ça. Si t'avais proposé ça, ça aurait pas été mieux. Alors, tout ce doute-là t'amène à être hyper vigilante dans le travail que t'effectues, ce que t'as pas habituellement. Alors, cette hyper-vigilance-là que tu développes t'amène dans une très grande fatigue, dans une émotion de non-accomplissement du travail qui, par contre, habituellement, est très appréciée de la part de la clientèle, mais qui est remis en doute de la part de la direction.
L'absence d'estime de soi, on dit souvent, c'est l'antichambre de la dépression. C'est un risque accru de ne pas se reconnaître, de ne pas être fier de soi, de ne pas être satisfait de soi, de ce qu'on a fait.
Quand ça commence, c'est comme si quelqu'un faisait un petit trou dans toi. Un tout petit trou. Un petit trou sur ta confiance. Un petit trou sur ta manière de penser que tu es. Tu sais, un petit trou sur ton être à toi. Il ouvre un petit morceau, un petit trou. Puis le temps passant, les réflexions passant, tu t'enterres. Tu t'enterres parce que le trou, il ragrandit. Puis tu n'as plus rien pour le boucher parce qu'il n'y a personne. Parce que la personne qui aurait pu t'aider à te relever, c'est elle qui fait le trou. Puis c'est la personne pour qui tu travailles.
Les problèmes de santé psychologique, ça n'arrive pas un beau matin comme ça, spontanément, sans s'être annoncé. C'est progressif. Du bien-être relatif dans lequel plusieurs personnes se retrouvent, on peut rapidement passer à la détresse psychologique, à passer à un état où on est plus anxieux, plus déprimé, plus irritable, plus fatigué. Et par la suite, si la situation de travail n'est pas changée, on va aller toujours plus loin, plus malade.
Une des questions, je pense, les plus importantes, c'est celle de la charge de travail. La fameuse idée de faire plus avec moins, là, ben, je pense que ça, on est rendu au bout du rouleau là-dessus, là, puis on l'a fait. Là. Mais là, c'est au dépens de la santé des gens que c'est en train de se faire. On l'a fait au dépens des postes. On a coupé des postes pour être capable de faire plus avec moins. Mais là, on peut moins couper de postes et donc on le fait au dépens de la santé des gens. Et on voit de plus en plus de gens qui sont préoccupés par cette question-là. Deuxième élément, c'est le changement. Tout change à l'heure actuelle. Plusieurs changements en même temps. Et avez-vous remarqué, pendant qu'on fait les changements, on n'arrête pas de faire notre travail, là. Et donc, ça se rajoute à ce qui doit être mis en œuvre. Et ce changement-là, faut le dire quand même, dans la plupart des cas, est source d'inquiétude pour les gens.
Dans le milieu de travail, aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit beaucoup, c'est qu'on a tué le plaisir au travail. Les pauses sont encadrées, les heures de dîner sont encadrées, la productivité, tout est en phase là-dessus. Au niveau des employeurs, aujourd'hui, avec le système informatique, on contrôle tout. Dans les usines de couture, j'ai eu connaissance qu'on installait des terminales après chaque machine à coudre. Chaque salarié a son terminal avec ses codes. Le code pour aller à la pause, le code pour finir sa journée, le code pour aller aux toilettes. Et là, le numéro 2, on mettait, mettons, 4 minutes. Le numéro 1, c'est 2 minutes. Si tu dépasses ça, on te fait venir au bureau. On te fait venir au bureau, ce qui se passe? T'es-tu malade? Y a-t-il quelque chose qui marche pas? Si t'es pour aller aux mains de toilette 3-4 fois par jour, ben ça va nous prendre un billet de médecin. Parce que là, tu produis pas les standards.
Je le vois de plus en plus dans les entreprises multinationales où c'est un siège social qui décide et qui décline ça partout, mur à mur, à travers la planète, sur une seule manière de faire les choses. Hein, et ça, bien évidemment, ça donne beaucoup moins de latitude aux gens. On tient moins compte de la culture. On a l'impression aussi de leur imposer des choses qui ne cadrent pas nécessairement avec leurs valeurs ou leur logique à eux là-dessus.
Moi, je suis intervenante. Je suis comme préposé aux bénéficiaires, mais vu qu'ils sont chez eux dans leur appartement, on appelle ça intervenant. Nous, on est là pour eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis on est là pour leurs besoins, les lever, les bains, ils ont des bains tous les jours. La direction, dans le fond, de où est-ce que je travaille, elle change des règles, c'est elle là-bas, c'est elle qui décide. Tu sais, avant, c'était, il y avait plus de lousse puis de conciliation travail-famille. Mais là, maintenant, là, t'arrives 5 minutes en retard, là, 3 fois 5 minutes, dans le fond, t'es suspendu. Je trouve que c'est trop radical de changer comme ça. Elle voulait faire installer un punch à l'entrée, digital, qu'on puisse rentrer puis que voir si on arrive en retard ou quelque chose comme ça. Mais il y a tellement... C'est pas ça le problème promis à la résidente. De ce temps-ci, là, c'est vraiment l'absentéisme des gens. Sauf qu'à un moment donné, faut, à place de mettre l'argent de ce côté-là pour voir les retards puis donner des sanctions, essaie donc de trouver pourquoi que les personnes n'ont pas le goût de venir travailler, pourquoi que l'ambiance est plus belle à la résidence, t'sais. D'essayer de trouver des solutions à ça au lieu de, justement, essayer de sévir.
Quand la santé mentale est brimée, quand on est fatigué mentalement, on se sent plus capable de suivre, on se sent qu'on nous respecte plus, on en vient à ne plus aimer notre travail, on se présente au travail reculons, on s'absente pour n'importe quelle raison, on s'est rendu qu'on compte les journées avant les vacances, on compte les journées avant notre retraite, on part à la retraite plus rapide, on s'amuse plus, c'est fatal, fatal.
Quand on s'absente pour le problème de santé mentale, on s'absente plus longtemps et ça coûte plus cher. D'ailleurs, des études ont montré que ça coûte 2 fois plus cher un épisode d'absence pour un problème de santé psychologique que pour un problème de santé physique. Près de 58 % des personnes qui présentent des symptômes dépressifs sévères ne sont pas absentées du travail. Donc, des personnes qui avaient le goût de rien faire, qui étaient déprimées, tristes à mourir, qui étaient irritables face aux autres, sont quand même présentées au travail. Et ces symptômes-là duraient au moins depuis 15 jours.
On voit un nouveau phénomène qu'on appelle le présentéisme. Hein? C'est-à-dire les gens qui viennent au travail même s'ils sont malades. Mais ce qu'on constate, c'est ces gens-là, parce que ça fait l'affaire de l'entreprise, hein? Ils viennent au travail même s'ils sont malades, mais qu'après un certain temps, ils constatent que la qualité de leur travail se détériore, puis que le sens et la motivation de ce qu'ils font est en train de s'altérer là aussi à ce moment-là. Donc même s'ils sont pas absents, ça veut pas dire qu'ils sont pas atteints, qu'il n'est pas en train de se passer quelque chose par rapport à leur engagement par rapport au travail.
S'absenter pour un problème de santé mentale, c'est pas toujours bien vu. Et souvent, au retour, on va se faire viser par des commentaires, genre, puis la vacance a bien été. Je t'ai rencontré au cinéma hier. Ou quelque chose, des choses aussi, des blagues aussi déplacées que ça, font en sorte que la personne va hésiter la prochaine fois avant de ne pas se présenter au travail. La reconnaissance, ça se pratique au quotidien. La reconnaissance, c'est pas facile à gérer parce que quand on reconnaît quelqu'un, on risque de ne pas reconnaître l'autre personne et créer des conflits, créer de la bisbille dans le milieu. Et c'est pour ça que souvent, c'est le prétexte que les gestionnaires prennent souvent pour dire « j'en fais pas de reconnaissance parce que ça va créer des jaloux ». La reconnaissance, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit sincère, il faut qu'elle soit répétée et il faut qu'elle soit discrète. Donc, sincère, ça veut dire qu'elle s'applique, qu'elle soit vraiment perçue par la personne qui reçoit comme étant quelque chose qui vient du cœur.
Nous sommes une usine de 70 salariés syndiqués. Ce qu'on fait plutôt ici, c'est des câbles d'acier.
On recouvre du câble et on fabrique aussi des accessoires pour des clients.
Un des actionnaires, à un moment donné, est venu celui-là du dîner à la cafétéria. Il nous a dit, en fait, pendant que je vous parle ici en ce moment, on est en train de signer qu'on a acheté une entreprise aux États-Unis. On est super contents. Puis ça, c'est grâce à vous autres, parce que vous êtes une grosse équipe. Vous êtes là, Si vous seriez pas là, on serait pas là non plus. Puis vous faites du bon travail. Les gens étaient contents. Parce que ça arrive pas souvent qu'on se fait donner une petite tape dans le dos.
Que le parti patronal concevait qu'on avait comme une petite part de responsabilité là-dedans. Parce que oui, on profite à faire grossir la compagnie. C'est un peu de notre sueur, de nos bras, puis tout ça, qui fait que... Fait qu'il y a des personnes que ça a touché beaucoup, puis il y en a même qui ont versé des petites larmes.
Je donnais une conférence à Montréal il y a quelques années. Je parlais de la reconnaissance sincère. Et à la fin, une personne est venue me voir, puis elle me dit, vous avez raison, la sincérité. La semaine dernière, c'était mon anniversaire de naissance. Puis j'ai reçu la veille une belle carte d'anniversaire de la part de la PDG de l'organisation. Et là, j'étais toute fière, ça m'a fait plaisir. Le lendemain, le jour de mon anniversaire, j'arrive au bureau, je prends l'ascenseur avec la PDG, mais elle ne m'a même pas reconnu. Donc là, c'était vraiment l'inverse, c'est l'effet négatif. Elle a vite réalisé que c'était une routine, c'était ce qu'on appelle un checklist. Dans l'année, il y a différentes activités de reconnaissance qui sont prévues et on les fait comme si c'était une obligation sans vraiment ressentir le besoin et sans vraiment faire sentir à la personne qu'on l'apprécie vraiment.
Moi, ce que je dis souvent aux gestionnaires et comme aux collègues aussi, hein, parce que c'est pas juste au patron hein, à reconnaître ses employés. Entre eux, ils peuvent aussi se reconnaître. Je leur dis souvent, partagez vos émotions. Dans le sens, quand vous êtes content, là, vous lisez un document, vous avez un appel, puis le client est content ou le fournisseur ou le patron est content, allez le dire aux gens, soyez spontanés. T'sais. Puis partagez votre joie ou bien le plaisir que vous avez eu de sentir que on a eu quelque chose de significatif ou quelque chose qui a été utile. Ça donne un carburant important pour les gens.
C'est déjà prouvé en matière de santé et sécurité classique, là, les accidents, les blessures, qu'un syndicat qui est dense, qui a une bonne représentation, qui a des délégués bien enracinés qui sont actifs, ça fait un milieu de travail où est-ce qu'il y a moins d'accidents. Alors, en santé mentale, c'est la même chose. Un syndicat qui veut vraiment agir en santé mentale, c'est sûr qu'il peut négocier des choses dans la convention collective qui vont faire une grosse différence, mais il faut qu'il soit là, au jour le jour, proche des problèmes que vivent les membres là, puis capable d'aller discuter avec le superviseur, avec la direction de l'entreprise, dans un comité de relations de travail ou dans des rencontres informelles pour dire, là, il y a quelque chose qui marche pas, il faut ajuster ça maintenant.
Le temps n'arrange pas les choses. Quand vous voyez qu'il y a des points chauds, je l'ai fait dernièrement dans un hôpital. On est intervenu dans un cas de conflit d'équipe. Et à la fin, j'ai rencontré l'équipe de direction, puis je leur ai dit, est-ce que vous avez d'autres points chauds comme ça dans l'équipe, dans l'hôpital? Est-ce que vous avez d'autres équipes où ça va pas bien? En l'espace de 5 minutes, ils m'en ont identifié 5 ou 6. Bien, j'ai dit, attendez pas que ça éclate. Attendez pas qu'il y ait un grief ou qu'il y ait une demande. Faites-le tout de suite.
C'est important d'aller à la source pour comprendre qu'est-ce qui explique ces conflits-là. On peut toujours dire que c'est un tel... Qui est pas facile, qui est grognon, qui est brouillon, puis une telle qui monte le ton un peu trop vite. Mais pourquoi, là? Qu'est-ce qui fait à la base là, que les gens se sentent dans cet état d'esprit? Quelle est la source de ces conflits-là? Quelle atmosphère on crée? Quelle surcharge on crée qui les amène à avoir ces comportements-là?
Souvent, quand il est question de couper, question d'économie, on va couper du temps au niveau du nombre de réunions d'équipe. Et même, on va les faire disparaître parce qu'on dit c'est ennuyant, on n'y se passe rien. Au contraire, les réunions d'équipe, c'est l'ABC de la gestion.
Très concrètement, ce qu'on a fait avec un gestionnaire dernièrement, c'est de s'entendre qu'il y avait d'abord, au début de la réunion, une demi-heure qui était consacrée à du dialogue sur le travail. Qu'est-ce que vous avez fait? Où vous en êtes rendu? Quelles sont les problématiques rencontrées? Quels sont les bons coups aussi? Qu'est-ce qui a bien marché? Donc, ouvrir la réunion en parlant du travail.
C'est pas vrai que ça coûte cher s'intéresser à la prévention des problèmes de santé psychologique au travail. La première chose à faire, c'est d'en parler. Ne pas nier le problème, pouvoir dire ce qu'on ressent, pouvoir dire les difficultés qu'on vit et voir de quelle façon on peut ensemble trouver des solutions pour y remédier.
Quand la charge de travail, quand les moyens pour faire le travail de qualité ne sont plus là, quand on n'arrive plus dans les délais. Donc, il faut être en mesure, quand les ressources sont insuffisantes, il manque de personnel, il faut être en mesure d'en parler à notre supérieur, à notre représentant syndical. Ce qu'il faut aussi amener les gens à faire dans les syndicats, c'est de documenter, de collecter des données qui pourront permettre de traduire avec des faits une réalité qui devient là, inacceptable ou intolérable.
Dans le monde du travail, il y a un employeur qui, à un moment donné, on parlait beaucoup. Les gens se plaignaient beaucoup du comportement du directeur, d'un directeur de production. Les gens s'en plaignaient beaucoup, puis c'était régulier, c'était récurrent. Paroles désagréables, des gestes désagréables, des menaces, constamment. Les gens se plaignaient beaucoup, jusqu'à temps que le syndicat prenne le dossier en main, dise... Il s'est trouvé une équipe de travailleurs, de confrères de travail qui étaient prêts à s'impliquer aussi. Ils ont décidé d'appuyer le syndicat. Et puis, chaque personne s'est mis à écrire. On écrit systématiquement tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, ce qui s'est produit, heure, date, événement, les paroles, puis les paroles précises. Mais quand on a déposé tous les dossiers complets, les gens les ont signés. C'est extraordinaire. Le directeur de production-là a perdu sa job. Il a été congédié. Deux autres contremaîtres aussi ont été congédiés pour les mêmes comportements parce que deux contremaîtres étaient cités aussi constamment dans les dossiers. Mais c'est pour dire que quand on se regroupe, qu'on forme un groupe solidaire puis qu'on y croit, tout le monde ensemble, puis qu'on s'en va dans la même...
Good evening. It's 6 o'clock. You're listening to Upstage on CKUT 90.3 FM and at CKUT.ca, the show about theater on the radio. From drama to musicals to burlesque to comedy and everything in between, professional, student, community productions in and around Montreal, Chautauqua. I'm your host, Sarah DeA, recording from home on Thursday, September 30th, 2021, our country's first national day for truth and reconciliation. On tonight's show, my guests. At one point, Jimmy Blay had left the stage behind, but this company pulled him back with a phone call.
It was scary, and it was a hard decision, but I had to take it because I felt like I couldn't continue doing what I was doing for the rest of my life. I was kind of lying to myself, you know, so I kind of closed my eyes and jumped, and I'm really happy I did.
And spoiler, Jimmy is now the new artistic director at Geordie Theatre, the same company that called him. Director Manoli Antonio finds inspiration about community and ties from the humble potato.
We produced the most famous potato in Greece, and I had such an ownership over it, you know? and then, you know, within the group, we realized that we also, all of us, we had... intimate and personal relationships.